À propos d'amitié, nous avons décidé de dédier cette causerie à Jean-Bertrand Pontalis, qui était notre ami commun, l'éditeur d'Aquila, et qui nous a quittés au mois d'octobre et qui nous manque beaucoup. Donc c'est une petite causerie dédiée à JB. Quant à la forme que ça va prendre, c'est vraiment, réellement une causerie à bâton rompu dans laquelle vous pouvez intervenir si vous avez des questions à poser, quand vous voulez, y compris en nous interrompant. Voilà. Et la première question que je voulais poser à Aquila, c'est... tourne autour de la façon dont s'est constituée sa bibliothèque à partir de l'enfance. Nous en avons un peu parlé hier, et il y a là des choses très très intéressantes qui tournent autour de l'extraordinaire personnalité du père d'Aquila. Donc voilà, comment, quid de la naissance de ta bibliothèque? Et d'abord de ta bibliothèque mentale.
Non, avant de répondre à cette question, moi je tiens à parler de notre première rencontre, comment nous nous sommes rencontrés et comment j'ai été amené à traduire Chagrin d'école. Je crois que notre rencontre, notre première rencontre, remonte à 2006, quand tu es venu au Japon pour donner une série de conférences, en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle au Japon la journée pédagogique, qui réunit chaque année un certain nombre de professeurs de français dans l'université d'Okyo où mon épouse travaille. Elle est un peu au centre de l'organisation de cette journée pédagogique pour fêter le 20e anniversaire de cette journée pédagogique. Elle a eu l'idée de créer un événement exceptionnel. Et donc elle a proposé à ses collègues l'intervention de Daniel parce que Michel, mon épouse, avait énormément apprécié comme un roman et puis elle propose assez régulièrement L'œil du loup à ses étudiants. C'est comme ça que donc la venue de Daniel au Japon a été programmée et au cours de son séjour avec Min, son épouse, à Tokyo, qui a duré une dizaine de jours, je crois.
12
jours. Il y a eu un jour de liberté et de promenade. Et Michel m'a proposé de l'accompagner, donc de partager cette journée avec Daniel et Mine. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes promenés dans Tokyo ensemble. Et voilà, donc c'était assez... assez miraculeux et même c'est assez rare d'éprouver un sentiment. Voilà, la journée se termine et c'est dommage de se quitter. C'est un sentiment que j'ai éprouvé à ce moment-là et Daniel et Mine ont eu la gentillesse de prolonger leur promenade jusqu'à notre maison où ils étaient attendus par notre chienne Mélodie
et qui nous a très bien reçu.
Daniel donc est un des rares amis français qui ont connu Mélodie Et je parle de Mélodie parce que j'ai écrit mon deuxième livre en français et entièrement consacré à cet animal. Bien sûr, c'est un livre sur un animal, sur une chienne, mais à travers l'évocation de la vie et de la mort d'un animal, je parle évidemment de la condition humaine. Bon, voilà, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, et depuis, on ne s'est pas quittés, quoi, voilà. Et donc, pour en venir à cette question, comment notre bibliothèque mentale s'est constituée peu à peu, c'est ça. Si tu parlais d'abord.
Ben, il se trouve que nous avions au même âge, nous avons eu au même âge, pas la même année, parce qu'Aquila est plus jeune que moi, mais nous avons eu au même âge la même lecture, la première lecture importante, c'était à 14 ans, et c'était le Guerre et Paix de Tolstoï. Aquila, pour une raison précise, qui est un rapport particulier qu'il entretenait avec un professeur de mathématiques particulièrement fin littéraire, et qui leur avait dit, en matière de littérature, il faut se lancer des défis. Premier défi, le voilà. Poum, poum, un énorme pavé de littérature étrangère à des gosses. Qui bien entendu ne savait rien de Tolstoï. Et Aquila, cet été-là, s'est appuyé ce devoir de vacances de lire Guerre et Paix. Et de mon côté, j'étais moi aussi en vacances avec un frère qui jouait avec moi et que j'adorais et qui tout d'un coup a cessé de jouer avec moi. Et j'ai dit, mais pourquoi tu joues plus avec moi ? Alors, il me dit, je lis. Et qu'est-ce que tu lis ? Je lis Guerre et Paix. C'est bien ? Ah oui, et qu'est-ce que ça raconte ? Et mon frère me fait ce résumé de Guerre et Paix. Il me dit, c'est l'histoire d'une fille qui aime un type et qui en épouse un troisième. Et alors, ce saut, ça a dû... du promis au troisième, m'a évidemment fait dire, j'y ai, c'est bien, j'ai dit, oh, c'est formidable, tu me le prêtes, je te le donne. Et je me suis retrouvé dans la même position qu'Aquila, à devoir lire, rentrant au pensionnat, car j'étais pensionnaire pendant toute mon enfance et toute mon adolescence, et Guerre et Paix a été la première lecture qui n'était pas une lecture proprement distrayante. Les lectures distrayantes, je les avais faites jusque-là, et les dernières étant les romans de Dumas, Les Trois Mousquetaires, 20 ans après Le Vicomte de Bragelonne, etc. Et tout d'un coup, je me trouvais dans autre chose. Aquila n'est pas allé cet été-là tout à fait jusqu'au bout de Guerre et Paix. Quant à moi, j'ai pris le parti de lire exclusivement l'histoire d'amour. C'est-à-dire, chaque fois qu'apparaissait le nom de Natacha Rostov, je lisais. Chaque fois qu'apparaissait le nom Andrei Bolkonski, je lisais. Et ça a été ma première lecture.
Donc tu sautais des pages.
Je sautais des pages, des continents. Ça a été la première lecture purement anecdotique sur l'histoire d'amour, en effet, entre Natacha, le prince André. Et bien qu'il ne faille pas dévoiler la fin d'un roman pour ceux qui n'ont pas lu, je vous annonce que Natacha n'épousera pas le prince André, mais Pierre Bezoukhov à la fin. Et voilà notre point commun littéraire au même âge. Mais chez toi, c'est Hugo qui avait un statut particulier.
Oui. Alors, en parlant de Tolstoï, c'est oui, effectivement, c'était un devoir de vacances pour moi. J'avais 13 ou 14 ans, je crois, à peu près donc le même âge. C'était un professeur de mathématiques tout à fait à la fin du premier semestre, avant les grandes vacances d'été, il nous dit vraiment c'est fondamentalement important de prendre l'habitude de lire. La lecture, c'est vraiment fondamental, et pour ça il faut se lancer un défi. Et il nous a proposé quelques titres. Le plus imposant, c'était Guérépé. Et comme j'ai accepté. Donc c'était, moi je n'ai pas sauté une seule page. C'était un devoir de vacances, donc je me suis embarqué dans cette aventure, et je crois pas avoir eu le temps de terminer cette lecture énorme avant la rentrée. Mais c'est vraiment un des premiers souvenirs de lecture très très intense pour moi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là, bien sûr je l'ai lu en japonais, mais de temps en temps, il y avait par moment, il y avait des notes du traducteur qui disaient ces phrases-là, ce passage-là, c'est écrit en français.
En français dans le texte, oui.
Voilà, oui. En français dans le texte. Et donc j'ai pris conscience de l'existence de cette langue. La langue française que j'ai découverte beaucoup plus tard, mais je me souviens, mais c'est quand même étrange dans un roman russe, pourquoi il y a des trucs qui sont des phrases qui sont directement écrites en français. Donc je me souviens encore avec une netteté particulière cette question que je me suis posée, mais il y a des phrases en français qui sont là dans ce roman. Et quant à Victor Hugo, que j'ai lu beaucoup plus tard, mais c'est une figure littéraire extrêmement importante, j'ai toujours eu le sentiment de le connaître à travers mon père. Mon père, c'était un ingénieur électricien, donc un scientifique, mais qui avait... une très grande admiration pour Victor Hugo. C'est lié sans doute à son expérience douloureuse de la guerre au Japon et en Chine. Et c'est donc il m'a parlé très très souvent de Victor Hugo. Un des termes extrêmement élogieux, donc il était présent dans notre famille. Les livres n'existaient pas. La bibliothèque de mon père était essentiellement constituée de livres scientifiques. Je n'ai pas le souvenir d'avoir trouvé des romans, des essais, de la poésie, des choses comme ça. Mais Victor Hugo était présent dans son esprit, et le goût pour la littérature peut-être est passé par là, oui. Mais j'étais pas du tout conscient à cette époque-là. J'ai découvert Hugo beaucoup plus tard. Évidemment, il faut que je dise que je suis né en français à l'âge de 18 ans. J'ai 62 ans cette année, mais en français, dans mon existence française, je n'ai que 45 ans. Donc je suis beaucoup plus jeune que Daniel.
Qui est quand même... Moi, en japonais, j'ai une existence prénatale. Quelquefois, comme ça, nous faisons des assauts d'âge. Et ta bibliothèque? Alors, la bibliothèque d'aujourd'hui, à quoi ressemble-t-elle?
Alors, ma bibliothèque ressemble à celle d'un professeur d'université, sans doute. Il y a énormément de livres, bien sûr, chez moi. Il y en a partout. C'est encombrant. je ne sais plus où mettre des livres qui arrivent qui nous, sans cesse, que je me procure, que j'achète, qu'on me donne, etc. Alors, et puis je ne peux pas me séparer de mes livres. Une fois qu'un livre est entré chez moi, je ne me suis jamais séparé volontairement d'un livre qui constitue ma bibliothèque. Donc, depuis le début de la construction de ma bibliothèque personnelle, cette bibliothèque n'a cessé de s'enrichir. Elle n'a jamais perdu un seul livre, à mon avis. Alors, contrairement à ce qui s'est passé chez Daniel, Daniel est arrivé dans un univers de livres, parce que son père avait une bibliothèque importante déjà. Alors que chez moi, mon père avait une bibliothèque, c'était une bibliothèque d'ingénieurs, donc constituée de livres scientifiques. Il n'y avait pas de littérature, d'après mes souvenirs. Donc, la bibliothèque actuelle que j'ai, c'est une bibliothèque que je me suis constituée tout seul. Voilà. Et à quoi elle ressemble ? Elle ressemble à celle d'un universitaire, donc il y a beaucoup de livres qui appartiennent au siècle des Lumières. C'est mon siècle à la fois préféré et professionnel. Je me suis spécialisé dans ce siècle, j'ai fait une thèse en France et une thèse au Japon. Donc c'est professionnellement parlant, au Japon j'existe comme professeur de français et chercheur en matière de siècle des Lumières. Donc dans au centre de ma bibliothèque, il y a une partie importante de ma bibliothèque est consacrée au XVIIIe siècle. Et puis tout le reste. Il y a des livres qui appartiennent à d'autres siècles. Il y a des livres en japonais aussi. Je crois que le nombre de livres en français est plus important que le nombre de livres en japonais chez moi. Voilà. Je me donne un principe de classement. Qui est sans cesse ce compromis, parce qu'il faut tenir compte de la taille de chaque livre. On ne peut pas mélanger un livre de poche avec le trésor de la langue française, par exemple, ça n'a pas du tout la même dimension. Donc on ne peut pas fonctionner uniquement le principe de classement qu'on se donne, c'est-à-dire le par siècle ou par domaine, par thème, etc. Il y a d'autres principes qui interviennent nécessairement. Mais voilà, en gros, le XVIIIe siècle, et puis les livres que j'utilise sans cesse dans mon enseignement, donc les fondamentaux, en général, les livres en japonais sont classés, sont mis ensemble selon la discipline, la sociologie, la philosophie, la littérature, le droit, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement original comme bibliothèque. Si, comme Jean-Michel nous a parlé de cette hypothèse, si quelqu'un nous volait notre bibliothèque, alors par quel livre on commencerait à reconstituer notre bibliothèque? Alors j'adopterais un autre principe de classement, sans doute. Mais pour le moment, la bibliothèque que j'ai à Tokyo est, est, est divisé en deux, livre en japonais, livre en français, et puis parmi les livres en français, le 18e siècle, et puis les fondamentaux, les dictionnaires, les livres de grammaire, que je consulte sans cesse pour préparer mes cours, pour donner mes cours, pour mon enseignement. Voilà. En gros, c'est ça.
Jean-Michel m'avait posé la même question. Si ta bibliothèque brûlait, quel livre tu sauverais? Et j'ai fait une réponse à la Tristan Bernard. Je dis, le plus près de la porte. Réponse pragmatique. Et parce que, à vrai dire, je n'ai pas un système de classification. C'est, les livres s'accumulent, on se promet toujours de les ranger, on se promet toujours de les mettre sur l'étagère idoine, et puis on ne le fait pas, et résultat des courses, ils se retrouvent dans la chambre, finissent par recouvrir le lit, etc. Et puis un jour, on se dit, non, allez, cette fois-ci, je vais le ranger. La bibliothèque de mon père, elle, était... J'ai une conception, en fait, je me rends compte que j'ai une conception matricielle de la bibliothèque. Je suis né dans cette bibliothèque paternelle qui n'était pas... Il n'y avait pas énormément de volume, parce qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais en revanche, il y avait un verger. La maison était dans un verger. Et alors, là où les volumes laissaient des trous, il y avait des pommes. Et la bibliothèque, pour moi, n'est pas dissociable du parfum des origines, qui était un parfum de pommes, qui demeurait là, bien entendu, et qui n'était pas mangé. Donc, ça devait être un parfum de pommes un peu sûr, comme ça. Ça a été la toute première bibliothèque. Mais... Ensuite, les années ont passé, j'ai rêvé, comme tout le monde, un peu crétin, j'ai rêvé d'un bureau, de mon bureau, et que ce bureau fût une protection, comme ça, de livres. Et c'était si présent que j'ai même, un jour, rêvé. Un jour, je me suis, dans un rêve, trouvé dans un fauteuil, très content de commencer ce rêve, qui était un rêve récurrent dans une période de cauchemar. Et alors, vous savez, quand on note ses rêves, on finit par évidemment agir dessus. Et m'asseyant dans ce fauteuil, je me dis, ah, formidable, je ne vais pas faire mes cauchemars habituels. Je rêvais que j'allais lire. C'était un sentiment absolument délicieux. J'étais dans un fauteuil de cuir, dans une petite bibliothèque, une bibliothèque très close, absolument sainte de livres. Et j'étais, vous savez, dans ce sentiment qu'on connaît, qui est délicieux, et qui est d'ailleurs même délicieux à décrire, qui est ce sentiment de bonheur qui précède la lecture. Quelquefois, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va lire, mais on est dans cette position accueillante, qui connaît sa physiologie, on est déjà assis dans le fauteuil, la lampe est là pour les fumeurs de pipe, la Bible. C'est-à-dire, ah, qu'est-ce que je vais lire? Et je rêvais à ça, et j'étais dans ce sentiment de bonheur intense, en cherchant des yeux le livre que j'allais lire dans la bibliothèque, lorsque tout d'un coup, la bibliothèque s'est mise à étrangement vibrer, et quelque chose coulait entre les livres, qui s'est répandu sur les étagères, comme ça, en faisant légèrement bomber, et c'était du sang. Les livres se sont mis à saigner, peut-être pour me rappeler que les bibliothèques ne contiennent pas essentiellement des objets de rigolade. Et dans mon rêve, je me disais, la bibliothèque saigne parce qu'elle contient Paulina 1880 de Pierre Jean Jouve, que je n'avais pas lu. Et puis je me suis réveillé en me disant, raté, moi qui ne croyais ne pas avoir fait un cauchemar, voilà, j'ai fait un cauchemar. Alors ça aussi, ce rêve, j'y repense souvent parce que c'est pas fréquent de rêver à une bibliothèque, et ça donnait pour moi, la bibliothèque, réellement l'importance d'une personne, et aussi réellement quelque chose de matriciel, de chaleureux, et en même temps de douloureux, etc. La bibliothèque que j'ai aujourd'hui et qu'à qui la connaît a cessé d'être une bibliothèque individuelle, d'égoïste enfermé dans son bureau. C'est notre salle à manger. Elle est tout autour de nous, avec le vin, très important, et aussi des assiettes. Enfin, tout est là. On pourrait tenir un siège, il y aurait à boire et à lire indéfiniment. Mais ce qui la caractérise, c'est qu'elle ne contient pratiquement que de mauvais livres. Car tous les bons ont été prêtés. Et que l'acte de lecture étant un acte d'anthropophagie par excellence, on ne peut pas demander à quelqu'un de rendre le livre qu'on lui a prêté. Et alors on le remplace. On dit, alors, tu as lu, alors évidemment, ce ne sont pas non plus, je ne vais pas passer d'examen à mes invités, mais on ne peut pas s'empêcher, quand on aime un livre, de dire comme tout à l'heure avec mon ami Lul, tu as lu le livre de l'intranquillité? Alors, si l'autre dit non, toc, le livre est là. Sauf qu'immédiatement, il n'est plus là. Et alors évidemment, on le remplace. Et à ce moment-là, on s'aperçoit au fil des ans de quelque chose à quoi on ne s'attendait absolument pas, qui est la mortalité réelle des livres. Tout d'un coup, ils cessent d'être réédités. Et on s'aperçoit qu'on a prêté, c'est-à-dire donné, perdu, le dernier livre vivant. Pour donner un exemple, il y a eu dans les années, il y a quelques années, une dizaine d'années, un roman absolument inouï, qui s'intitulait... Alors voilà, ça c'est la difficulté des conversations intellectuelles avec moi, c'est que je suis alzheimerien de naissance et que j'oublie et le titre et le nom de l'auteur. Et ce roman s'intitulait « Garder les bêtes ». C'était un roman d'un écrivain anglais qui a eu un succès absolument foudroyant et qui était un espèce de roman qui s'a... Enfin bref, que j'ai tellement aimé, je l'ai prêté, et qui n'existe plus. Donc si quelqu'un sait où on peut trouver « Garder les bêtes », et je retrouverai le nom de l'auteur tout à l'heure. Donc voilà, ce qui caractérise ma bibliothèque, c'est que évidemment tous les bouquins que j'aime n'y sont plus pour la plupart. Et la plupart de ceux qui n'y sont plus ne sont plus trouvables non plus. C'est l'inconvénient du prêt.
Donc il y a des trous. Il y a des trous.
Alors il y a des trous. Il y a bien entendu des choses qui sont absolument inépuisables. Si on veut lire telle scène de Titus Andronicus, on a toujours ça. Shakespeare, par bonheur, ne disparaît pas. Alors on peut prendre, lire, mais beaucoup ont disparu, oui. Dont Magnus Mills. Je vous recommande la lecture de cet inconnu total, qui s'appelle Magnus Mills, qui était, je crois, chauffeur de bus de son état, et qui a écrit ce chef-d'œuvre inouï intitulé « Retenir les bêtes ».
Tu as dit tout à l'heure « Garder les bêtes ».
Garder les bêtes. Non, retenir les bêtes. Eh bien, je m'étais trompé tout à l'heure. C'est « Retenir les bêtes qui raconte... C'est un roman extrêmement abstrait, qui raconte l'histoire de trois ouvriers dont le métier consiste à tendre des packages, comme ça, avec des fils de fer barbelés. Et il ne se passe rigoureusement rien d'autre que cette tension de package, à part deux événements. L'un des deux ouvriers sont amis, comme Aquila et moi, et toutes les 15 pages environ, l'un demande à l'autre, t'as pas un clope? Et l'autre sort son paquet de cigarettes qu'il a dans sa poche pectorale et tend une cigarette à son camarade qui prend la cigarette. Deuxième volet du dialogue, t'as pas du feu? Et le propriétaire de cigarettes cherche du feu, mais il a toujours des jeans tellement serrés qu'il met un quart d'heure à sortir le briquet pour allumer la cigarette de son collègue. Et le troisième, qui est le chef, qui est le contremaître, s'interroge le plus sérieusement du monde sur la raison pour laquelle cet imbécile ne range pas son briquet avec les cigarettes, ce qui ne leur ferait pas perdre un quart d'heure de travail chaque fois qu'il... Voilà. Et c'est un chef-d'œuvre. Magnus Mills, retenir les bêtes.
Alors, donc, si je comprends bien, tu prêtes beaucoup de tes livres, mais y a des livres dont tu te sépares jamais aussi.
Alors oui, il y a des livres qui n'ont jamais le droit de sortie. Ce sont ceux écrits par des amis qui me les ont offerts personnellement. Les livres d'Aquila ne quittent pas la bibliothèque. Une langue venue d'ailleurs ou mélodie ne quitte pas la bibliothèque. Si je veux offrir du Mizubayashi, je vais dans la librairie qui est à côté de chez moi, je rachète et j'offre. Les livres de Pontalis, les livres de JB ne quittent pas, n'ont jamais quitté. Hein. 20 ans d'amitié n'ont jamais quitté la bibliothèque. Ça, je ne sais pas pourquoi, c'est une superstition. Souvent parce qu'ils sont dédicacés aussi. Mais même, ils sont sacrés, ils font partie de la maison.
Oui, à propos de JB Pontalis, j'ai un souvenir très très précis. C'était donc un des deux ou trois séjours que j'ai fait chez toi. J'étais venu chez toi avec la traduction que j'avais faite de Chagrin d'école. J'avais beaucoup beaucoup de questions à te poser. Et un matin, je ne sais pas, tous les jours on commençait à travailler vers 10h. Et donc un matin, je t'attendais dans cette bibliothèque. Et puis, comme ça, tout à fait par hasard, le nom de JB Pontalis m'a frappé. Et il y avait, je ne sais pas, l'ensemble des livres de JB. Et j'ai pris, tout à fait par hasard, L'amour des commencements. Et là-dessus, tu es arrivé et tu me dis, mais tu connais ce monsieur? Et je t'ai répondu, oui, je le connais à travers ses livres et puis en particulier son dictionnaire que tout le monde... tous les étudiants le consultent en littérature et je t'ai même parlé d'un souvenir radiophonique très très précis. J'ai une grande admiration pour un professeur de littérature française qui s'appelle Jean Starobinski, qui était professeur de littérature à l'université de Genève. Et il y a peut-être une vingtaine d'années, j'ai écouté une émission de littérature entièrement consacrée à Starobinski. Et l'émission, donc l'interview se passait dans sa maison, dans son bureau à Genève. Et c'était une émission de 90 minutes et l'émission était parsemée de témoignages d'amis. Il y avait des gens comme Yves Bonnefoy et le premier ami convoqué, c'était JB. Donc j'ai entendu pour la première fois la voix de JB Pontalis à ce moment-là, dans cette émission-là, et sa voix de baryton est entrée une fois pour toutes dans ma mémoire, dans mon esprit, et le souvenir était... comment dire... le souvenir est très précis. La journaliste qui présentait l'émission, elle l'a présenté, JB, comme Jean-Baptiste Pontalis.
Souvent ça arrive.
Jean-Baptiste Pontalis. Et donc j'ai cru pendant très très longtemps, pendant 25 ans, jusqu'à la rencontre chez toi avec JB, je croyais qu'il s'appelait Jean-Baptiste Pontalis. Donc je t'ai parlé de mon souvenir de cette émission de France Culture consacrée à Starobinski, et tu m'as dit tout de suite, bon, je lui téléphone, je l'invite à dîner demain soir, on va dîner ensemble. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance.
Oui, les choses étaient tout à fait... C'était comme ça que ça se passait avec JB. Je disais, écoute, j'ai un ami japonais qui a une connaissance telle du français que ça serait très intéressant qu'il écrive sur la langue française. Dans la collection de JP s'appelait L'un et l'autre. Vous la connaissez, bien entendu, beaucoup d'entre vous. Et alors, ça, c'était absolument instantané. Il dit, mais j'arrive. Voilà. Dis non ce soir ensemble. Et hop. Et comme ça se décide, pour Aquila, la décision est prise d'écrire en français ce qu'il avait fait par petits morceaux, presque clandestinement, un livre, un texte sur le bain japonais, des choses comme ça que j'avais lu. Et grâce à la spontanéité, la curiosité de J.B. Pontalis, les choses se sont faites, mais le plus naturellement du monde. Ça, c'était sa grande, une très très grande qualité qu'il avait.
C'était un petit complot, alors, de ta part.
C'était un peu prémédité. Ça veut dire que, oui, c'est ça. J'avais parlé de toi en disant, mais écoute, ce rapport à la langue. Voilà. Parce que le rapport à la langue d'Aquila, tel que je l'avais compris à l'époque, est le suivant. Imaginons un adolescent, fin d'adolescence, japonais, 18 ans, et qui prend conscience, et ça, c'est une prise de conscience linguistique très étrange, qui prend conscience que sa langue natale ne peut pas être l'outil nécessaire à un effort de pensée, un mode de pensée dont il a l'intuition, qui n'est ni plus ni moins que la pensée rationnelle. Et il lui faut un autre outil. Le japonais ne peut pas le fournir dans ce domaine. Et je ne sais pas combien de personnes au monde ont eu l'intuition qu'une autre langue, que leur langue natale, pourrait leur servir d'outil intellectuel, de construction de soi et de raisonnement sur l'ensemble des corpus existants littéraires. Et quand j'ai compris ça de ce que Aquila me racontait, j'étais absolument sidéré. Absolument sidéré. Et j'en ai parlé immédiatement, c'était donc pas tellement prémédité, mais c'était une impulsion, parce que c'est pareil, c'est de l'ordre de la transmission, du partage. Je suis allé un jour, avec JB, on buvait un whisky le lundi à 7h chez lui, c'était un rituel. J'ai dit, écoute, je viens de rencontrer un type incroyable, et voilà la perception qu'il a eue du français, les raisons pour lesquelles. Et à partir de là, évidemment, JB s'y est intéressé. Et quand tu es ensuite arrivé à la maison et que tu me dis, je t'ai dit, tu connais Pontalis ? Il y avait cette conversation derrière nous déjà, entre lui et moi.
Oui, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Quand je t'ai rencontré donc pour la première fois à Tokyo, lors de ta visite, lors de cette conférence que tu as donnée dans le cadre de la journée pédagogique, tu m'as dit que tu souffrais d'un décalage horaire, que tu n'arrivais pas à t'endormir, et j'ai eu l'idée de te passer un texte que j'avais écrit sur la pratique du bain au Japon. Oui. Et voilà. Et je t'ai donné ce petit texte qui avait été publié dans la revue Critique dans les années 82-83. Et le lendemain, donc le jour de notre promenade inoubliable, tu me dis, voilà, ben, il faut que tu écrives en français. Il faut que tu écrives en français. Et c'est la première incitation à l'écriture en français que j'ai reçue. Bon, j'écarte toutes sortes de conseils ou toutes les incitations familiales. Michel, mon épouse, m'a dit combien de fois, ben, écrit en français aussi, comme ça, au moins je pourrais lire ce que tu écris. Voilà. Donc, bon, j'écarte ces multiples conseils familiaux. Mais voilà, je n'avais jamais eu l'idée d'écrire quoi que ce soit en français. Je vis à Tokyo, je suis japonais, je suis bon, dans ma vie professionnelle, le français a une place considérable, et dans ma vie familiale aussi, et dans ma vie intellectuelle, je lis tous les jours en français, mais je n'avais jamais eu l'idée d'écrire de m'exprimer, voilà, de pour moi, c'était un moyen de lire des livres en français, la langue française, mais ça, je n'avais jamais considéré la langue française comme comment un moyen d'expression littéraire. Et quand je t'ai rencontré, donc c'est toi qui m'a donné véritablement cette espèce d'incitation à l'écriture en français. Et voilà, je crois que c'est resté là. Et quelques années, 2-3 ans après, il y a eu cette rencontre avec J.B. Pontalis. Et à la sortie de ce dîner, J.B., au cours de ce dîner plutôt, il me dit il y a de quoi écrire un livre. Il y a de quoi écrire un livre en parlant du rapport que j'ai à la langue française. Voilà la deuxième incitation venant d'un Français, et donc la deuxième incitation est venue de J.B. Pontalis. Je n'ai pas pris au sérieux, mais après le dîner, quand on l'a accompagné jusqu'au taxi ensemble, avant de monter dans le taxi, J.B. me dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une plaisanterie. Et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, toi, tu avais rendez-vous avec Antoine Gallimard, et tu m'as pris dans ta voiture, et
il était piégé.
Voilà, donc tout ça, je m'aperçois que maintenant, c'était un petit complot préparé par Daniel. Mais ça a complètement transformé ma vie, je m'aperçois que je me dis que c'est Daniel et ensuite JB qui ont réveillé le désir d'écriture en français qui sommeillait en moi.
Et si maintenant on passait de la bibliothèque meuble à la bibliothèque mentale, qu'est-ce qui t'accompagne dans ta bibliothèque mentale? Qu'est-ce que tu trimbales de l'ensemble des livres lus? Quels sont les
Alors il y a des livres que j'ai lus et il y a des livres que je vais lire. Et alors il y a des auteurs japonais, il y a des auteurs français. Et alors moi je ne lis que le japonais et le français, donc les auteurs étrangers, je les lis soit en français et soit en japonais. Donc les livres qui m'accompagnent, je crois que c'est l'expression la plus appropriée, les livres qui m'accompagnent, les auteurs qui m'accompagnent. Alors, d'abord, du côté japonais, il y a un philosophe, un essayiste qui a joué un rôle absolument déterminant pour que je me lance dans l'apprentissage du français. C'est un auteur qui s'appelle Mori Arimasa, Arimasa Mori, il n'est pas très connu en France. Il est surtout connu comme traducteur des contes d'Akutagawa. Il a longtemps vécu en France. Il est mort en France. Il a fini par être professeur de japonais, de littérature japonaise au Langzhou. Mais à l'origine, c'est quelqu'un qui était professeur de philosophie française à l'université impériale de Tokyo. Voilà, donc c'est un auteur qui a joué un rôle absolument déterminant. Je crois que sans la lecture de cet auteur, je ne serais pas passé à l'acte. Daniel a parlé tout à l'heure de mon rapport à la langue française. C'est vrai que j'avais un rapport difficile à ma langue d'origine. Je souffrais d'un malaise dans ma propre langue, et c'est certainement lié au contexte, aux années 68, 69, 70, au contexte politique où la langue japonaise qui m'entourait était extrêmement appauvrie à cause des slogans politiques, etc. Donc voilà, c'est une expérience singulière. Je n'ai nullement l'intention de dire que la langue japonaise en tant que telle est pauvre. Ça, c'est pas du tout vrai. Je n'ai pas une opinion essentialiste par rapport à la langue japonaise, mais j'ai vécu, il se trouve que j'ai vécu, quand j'avais entre 16 ans et 18 ans, mon rapport à la langue japonaise, à ma langue d'origine, de cette façon-là. Donc j'avais besoin d'aller ailleurs. Et cet ailleurs m'a été donné par ce philosophe japonais, spécialiste de la philosophie de Descartes et de Pascal, et qui quasiment abandonnait le Japon pour aller travailler, pour aller découvrir le pays et la langue qu'il avait étudiée. Voilà. Donc c'est un auteur japonais qui m'accompagne sans cesse. Il y a un autre auteur qui m'accompagne, c'est Natsume Soseki, que je relis sans cesse. Voilà. Et du côté français, il y a Rousseau, bien sûr. Rousseau, Diderot, ce sont deux auteurs des Lumières que je ne cesse de relire. Voilà, ce sont des auteurs qui m'accompagnent. Sinon, j'ai des souvenirs de lecture que j'ai eu avant mon accès à la langue française, donc j'ai lu beaucoup de livres qui relèvent de la littérature française en langue japonaise, comme Le Rouge et le Noir, Le Père Goriot, L'Étranger, La Nausée, Madame Bovary, Nana, Germinal, etc., etc. Donc ce sont des livres, sans doute si ma bibliothèque disparaissait, comme la supposition de tout à l'heure, je me précipiterais, je ferais tout pour les avoir à côté de moi, tout de suite, près de moi. Parce que ce sont des livres qui sont constitutifs de ce que je suis aujourd'hui. Donc si on me séparait de ces livres, c'est comme si on m'enlevait une partie de moi-même. Voilà, donc cette bibliothèque mentale est constituée de livres que j'ai lus en japonais, mais qui font partie de la littérature française, et de livres que j'ai lus après mon accès à la langue française, et qui sont extrêmement importants et qui ne cessent de m'accompagner. Mais il y a autre chose. Bon, ce n'est pas de la littérature, mais il y a, dans mon cas, il y a aussi un certain nombre d'œuvres musicales aussi qui ont le même degré de présence que ces livres. Par exemple, dans ma bibliothèque, il y aura toujours, je ne peux pas me séparer des opéras de Mozart. Les Nozze Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, La Flûte enchantée, ces quatre opéras, je ne peux pas me séparer de ces quatre opéras. Et je ne cesse de les réécouter. Pour moi, comment dire, il n'y a pas tellement de frontières très nettes entre la littérature et puis cette musique qui m'a toujours accompagné depuis mon adolescence.
Pour ce qui est de ma propre bibliothèque mentale à moi, pour en finir avec ce concept de bibliothèque mentale, elle n'est guère différente de celle que j'ai essayé pendant 25 ans de communiquer à mes élèves. Mes élèves étaient réputés, enfin, ils n'étaient pas seulement réputés, ils déclaraient d'entrée de jeu ne pas aimer lire. Certains s'en faisaient une gloire. Ça me faisait rigoler. Je ne les croyais pas. Et le travail de réconciliation à la lecture et à la littérature passait chez moi par un exercice très très controversé. Qui était l'apprentissage par cœur. Je me suis fait engueuler par les parents d'élèves. Comment vous apprenez, vous faites apprendre des textes par cœur à mon fils? Mais mon fils n'est plus un bébé, mon fils n'est plus un enfant. Et madame, Votre fils sera sa vie durant un enfant de la langue.
Alors Daniel, donc, je te propose de lire cette magnifique page de Chagrin d'école qui parle de ça justement. Voilà, ce sera...
Alors ça, c'est pas préparé.
Ça, c'est... Parce que c'est une page de Chagrin d'école absolument magnifique et que je propose chaque année systématiquement à mes étudiants. Voilà.
Oui, ils donnaient... Bon, parce qu'évidemment, les gosses résistent, parce qu'ils ne savent pas comment on va leur faire... Ils s'imaginent, on leur dit, vous allez apprendre tel et tel texte par cœur, ils s'imaginent que ça va être sous la forme suivante, Aquila rentre chez toi et demain revient avec ce texte dessus. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Les textes ne sont appris que par... nous les apprenons ensemble en les expliquant. Et plus le sens s'impose, plus la mémorisation se fait. Et au moment où ils sortent de la classe, ils connaissent déjà pratiquement, d'autant plus qu'ils ont une mémoire d'une vélocité incomparable à celle que j'avais à ce moment-là. J'avais déjà 50 ans, donc ils étaient beaucoup plus habiles que moi.
Alors, il y a une mère qui dit à Daniel... Comment, monsieur Pennacchioni, vous leur faites apprendre des textes par cœur? Mais mon fils n'est plus un enfant. La réponse du professeur.
Où est-ce que c'est? Oui. Votre fils, chère madame, n'en finira jamais d'être un enfant de la langue. Et vous-même, un tout petit bébé. Et moi, un marmot ridicule. Et tous, autant que nous sommes, menus fretins charriés par le grand fleuve jailli de la source orale des lettres, et votre fils aimera savoir en quelle langue il nage. Ce qui le porte, le désaltère et le nourrit. Et se faire lui-même porteur de cette beauté. Et avec quelle fierté, il va adorer ça, faites-lui confiance. Le goût de ses mots dans sa bouche, les fusées éclairantes de ses pensées dans sa tête, et découvrir les capacités prodigieuses de sa mémoire, son infinie souplesse, cette caisse de résonance, ce volume inouï où faire chanter les plus belles phrases, sonner les idées les plus claires, il va en raffoler de cette natation sublinguistique. Lorsqu'il aura découvert la grotte insatiable de sa mémoire, il adorera plonger dans la langue, y pêcher les textes en profondeur et tout au long de sa vie les savoir là, constitutifs de son être, pouvoir se les réciter à l'improviste, se les dire à lui-même pour la saveur des mots, porteur d'une tradition écrite grâce à lui redevenue orale, il ira peut-être même jusqu'à les dire à quelqu'un d'autre pour le partage, pour les jeux de la séduction, ou pour faire le cuistre, c'est un risque à courir. Ce faisant, il renouera avec ses temps d'avant l'écriture, où la survie de la pensée dépendait de notre seule voix. Si vous me parlez régression, je vous répondrai retrouvailles. Le savoir est d'abord charnel. Ce sont nos oreilles et nos yeux qui le captent, notre bouche qui le transmet. Certes, il nous vient des livres, mais les livres sortent de nous. Ça fait du bruit, une pensée. Et le goût de lire est un héritage du besoin de lire. Et c'est vrai que cette histoire d'apprentissage, le principe étant leur faire apprendre des textes par cœur, qu'ils avaient évidemment analysés, compris, etc., avec lesquels ils pouvaient intellectuellement jouer, mais qu'ils sortent toujours du corps d'un roman ou d'un essai. En sorte que quand ils l'avaient en mémoire, ils savaient que via ce texte, ils avaient en quelque sorte la totalité du livre à leur disposition. C'était une porte d'entrée pour relire ce texte. Alors, ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être un texte de Kafka, ça pouvait être un texte de Stevenson, ça pouvait être un texte de Rousseau. L'essentiel étant que une fois qu'ils possédaient le texte, ils ne le possédaient pas in abstracto. Ils le possédaient en fonction du livre entier qu'ils connaissaient. Et tout ça, c'était d'ailleurs pour répondre à une exigence idiote du ministère de l'Éducation nationale, des donneurs, de distributeurs de sujets de baccalauréat, qui dans les années 70-80 flanquaient toujours cette phrase d'une hypocrisie inouïe à la fin des sujets, qui était « Vous éterrez vos raisonnements d'exemples tirés de votre culture personnelle ». Le pauvre môme, quand il arrivait au bac, quel exemple ? Quoi ? Alors C'était quoi le résultat de cette cuistrerie? C'était qu'ils collectionnaient les recueils de citations. Alors, ils apprenaient les citations par cœur, comme ça, en l'air. La vie est dure sans confiture, Spinoza, hop. Et alors, ils disaient n'importe quoi, ils se trompaient, ils mélangeaient des citations. C'était tellement bête et que je m'étais dit, il faut réintroduire d'une façon ou d'une autre la totalité du texte via le petit morceau de texte appris, que ce soit sans arrêt, qu'il trimballe ça. Et alors évidemment, ce qu'il y a de délicieux, c'est que quand maintenant que tout ça est de l'ordre du passé, quand j'en croise un dans la rue, il n'y a pas très longtemps, c'était, j'avais noté dans Chagrin d'école, promenais en Corse, j'étais à Ajaccio, je marchais dans la rue et j'entends tout d'un coup une voix féminine me dire « Ne touchez pas l'épaule du cavalier qui passe !» Alors quand même, étonnant, je me retourne et je vois une très jolie fille, c'était elle, et j'avais, alors je lui réponds, je lui dis « Il se retournerait et ce serait la nuit. » Et elle reprend une nuit sans étoiles, sans courbes, ni nuages. Question, que deviendrait alors tout ce qui fait le ciel, la lune et son passage, et le bruit du soleil, et la gamine, car c'était une ancienne élève, et c'était pour moi toujours une gamine, bien qu'elle ait à l'époque une quarantaine d'années, de conclure, il vous faudrait attendre qu'un second cavalier, aussi puissant que l'autre, consentît à passer. Et c'était un poème de Supervielle, qui s'appelle L'Allée, qu'elle avait apprise en quatrième, et dont elle se souvenait. Alors évidemment, et après, bien entendu, elle s'était mise à son Supervielle, connaissait Supervielle, ils étaient intéressés à Supervielle, puis ensuite, après Supervielle, etc. Elle fait tache d'huile, s'est intéressée à la poésie en général. Et c'est un des. Ça me touche toujours beaucoup, qu'il ne les ait pas oubliés 30 ans après. Parce que le temps passe à une vitesse effarante. L'autre, pas très longtemps, une gamine aussi m'appelle « Monsieur, monsieur !» Je sortais d'un cinéma. Je dis « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» Petite, hein, 8 ans, 9 ans, comme ça. Elle me dit « C'est mon grand-père. » Je dis « Qu'est-ce qu'il a ?» Je vois un vieux monsieur de l'autre côté du trottoir. Elle dit, « Ça a été votre élève. » Il avait été mon élève. Et lui se souvenait, donc c'était vraiment au Moyen-Âge, et il se souvenait d'un roman argentin, écrit d'ailleurs par un ami de Supervielle. Ce roman s'intitulait « Don Segundo Sombra ». Et le monsieur traverse et me dit « Don Segundo Sombra ». Et alors là, de la mémoire des profs, je me dis « Toi, je t'ai eu en 1971 à Soissons en cinquième, car c'est la seule année où j'ai parlé à mes élèves de Don Segundo Sombra. » Et d'ailleurs, on a tort de les réconcilier avec la lecture, parce que j'ai dit « Alors que fais-tu maintenant ?» Il me dit « Ben voilà, vous avez fait de moi l'être le plus dangereux qui soit, je suis pilote de ligne et je bouquine sans arrêt. » Alors j'ai dit « Quelle ligne, que je ne l'apprenne pas !» L'Amérique du Sud, en Argentine, dans Segundo Sombra. On dit, il faut lire, mais ça a des conséquences.
Voilà.
Écoutez, nous vous remercions. Oui.